Bonjour et bienvenue sur Micro-Entreprise, le balado qui en quelques minutes vous explique des théories, des pratiques, des tendances qui sont reliées à l'entrepreneuriat. Marketing, finance, gestion de projet, stratégie de développement, business plan, d'un balado à l'autre, nous décortiquerons avec l'aide de nos invités différents sujets et astuces qui vous permettront de développer votre business.
Bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Micro-Entreprise. Je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssey Marketing et la cause de ce podcast. Chaque mois, nous vous proposons de découvrir le parcours d'un ou d'une entrepreneur. Dans cet épisode, j'ai invité Davina McPhail, directrice des partenariats chez Sprink. Avec elle, nous verrons comment les startups et les PME peuvent faire pour se développer et se financer. Ben bonjour Davina, merci d'être ici sur ce podcast pour nous parler du financement des PME et des startups.
Ben, bonjour à toi et merci pour ton accueil.
Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais?
Eh bien, écoute, donc moi je suis directrice des partenariats chez Spring, donc une organisation qui est basée ici à Vancouver, mais qui est présente dans tout le Canada. Voilà, je m'occupe de startups, d'investisseurs. Nous, notre spécialité chez Spring, c'est de travailler avec les entrepreneurs et les investisseurs qui a impact, ce qu'on dit à impact, et donc qui essaient de résoudre une problématique sociale, environnementale, voilà, on forme les entrepreneurs. On peut être qualifié comme accélérateur d'entreprise, on forme aussi les investisseurs, et puis ensuite notre objectif c'est de les mettre en relation pour leur permettre de développer une relation ensemble.
Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience dans le domaine du coup des startups, des investissements et des incubateurs?
Ouais, mais écoute, moi ça fait donc presque 15 ans donc que je suis dans la vie active, donc j'ai eu un parcours en fait qui m'a permis de voir différents aspects de l'univers des startups. J'ai commencé dans la finance classique et dans le développement, donc j'étais pas tout à fait au démarrage dans les startups, même si j'ai passé quelques mois dans une entreprise en France à Paris qui s'appelle Ladi et donc qui fait des financement des micro-entrepreneurs en France, mais ça c'était il y a un petit moment. Et en fait, après, je suis partie dans la finance classique pour ensuite retourner dans cet univers des startups. En fait, j'ai habité au Cambodge pendant 4 ans et là, j'ai soutenu un projet, une ONG qui développait une entreprise sociale qui était en quête de trouver des moyens en fait de pérenniser financièrement l'ONG. Donc, ils avaient ce projet de créer cette entreprise sociale. Donc, moi, je suis arrivée dans ce projet. C'était un peu ma première expérience vraiment start-up, puisqu'il fallait monter cette entreprise, aller chercher des investisseurs, monter l'équipe, le projet. Donc, ça, c'était un peu cette première expérience-là. Et puis après, j'ai rejoint un fonds d'investissement en France quand on est rentré en France. L'idée, c'était de pas juste voir un projet ou d'être juste dans une start-up, mais de vraiment travailler dans un fonds qui investit dans des start-up aussi à impact. Donc, je restais un petit peu dans ce domaine-là. Du coup, la chance de pouvoir voir plein de projets, plein de start-up, de les présenter à notre comité d'investissement pour investissement et donc de voir un peu la vie des startups du côté des investisseurs. Et puis donc je suis arrivée à Vancouver il y a 2 ans et demi et j'ai rejoint donc cet accélérateur qui est Spring. Et donc là, une autre vision, un peu une autre façon de voir aussi tout cet univers-là, pas start-up, fonds, et là, plutôt de la vision accélérateur. Donc, on est vraiment là pour accompagner les entrepreneurs dans leur croissance. On n'est pas un investisseur nous-mêmes. Donc, c'est une autre relation avec les start-up que je trouve aussi super intéressante et riche. On n'est pas là pour leur donner de l'argent, mais pour les accompagner. Donc, c'est une autre relation qui se crée et qui est aussi super intéressante.
Et les entrepreneurs qui
sens.
Arrivent via Spring, ils sont à quel stade de leur aventure entrepreneuriale?
Alors, c'est nous, on spécialise vraiment sur tout ce qui est vraiment tôt, en fait, ce qu'on appelle en bon français le early stage. Mais voilà, c'est vraiment le, on va dire, pas le tout démarrage, parce que ça, c'est vraiment le stade de l'idée, l'idéation. Et même plutôt, hein, enfin, voilà, l'incubation d'idées. En fait, nous, on intervient assez tôt, mais quand une entreprise est prête à aller parler avec des investisseurs, donc en train de réfléchir à lever des fonds. Mais après, voilà, c'est pas hyper black and white, je veux dire, je sais pas si on peut dire ça, mais on a une définition qui est quand même assez large, et donc on a des entrepreneurs qui sont très tôt, qui sont de certains qui sont plus avancés. Ça va un peu dépendre aussi de l'industrie dans laquelle ils sont. Si c'est des startups qui sont très innovantes, ils sont encore dans des étapes de recherche et développement, donc qui sont encore très tôt et qui n'ont pas encore de produit vraiment ou un produit dans le marché. Et parfois, on a des entreprises qui sont dans tout ce qui est CPG, donc des produits de consommation. Et là, bon, ils sont déjà dans le marché, ils ont déjà des ventes, mais voilà, ils n'ont pas encore eu l'occasion d'aller voir des investisseurs, donc ils viennent vers nous.
Très bien. Avec tous les entrepreneurs que tu as pu voir, toutes les entreprises que tu as pu voir au cours de ta carrière, j'imagine qu'il y a certains défis qui doivent revenir à chaque fois pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, au niveau des défis, au niveau du financement et pour se développer? Qu'est-ce qui revient en général?
Souvent déjà c'est en fait comprendre comment ça marche. Je pense que c'est une question toujours un peu d'accès quand même dans ces choses-là. Juste comprendre un peu le comment ça fonctionne un peu tout ce monde de l'investissement, qui sont les acteurs, quand est-ce qu'il faut aller les voir, à quelle étape. Donc je pense que ça c'est voilà, c'est quelque chose d'important. Il y a des entrepreneurs qui ont déjà fait ça, qui ont déjà monté des boîtes, donc qui savent. Et puis, il y a ceux qui sont complètement nouveaux à tout cet univers-là, qui ont une idée, qui ont envie de créer une entreprise, mais qui doivent un peu comprendre comment fonctionne un peu tout cet univers de l'investissement. Je pense que l'important aussi, ce qui manque souvent aux entrepreneurs, c'est les ressources. C'est à la fois des ressources financières qui est un peu liée au premier point là sur l'investissement, mais souvent pour un entrepreneur au démarrage, le principal problème c'est les ressources. Donc à la fois des ressources financières, mais aussi les ressources de temps. Et je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut pas négliger. Enfin, un entrepreneur qui a son entreprise, tous ceux qui écouteront là, souvent il n'y a pas une grosse équipe derrière, hein, c'est une personne qui démarre, et donc la façon dont ils utilisent leur temps est hyper hyper importante, et comment ils priorisent, disons, telle ou telle l'activité business, l'activité levée de fonds, l'activité voilà participer à des programmes, hein, parce que enfin les startups sont ont souvent ces possibilités-là de participer à des programmes d'incubation, d'accélération, qui sont super intéressants et super riches, mais qui sont aussi une demande sur leur temps et sur leurs ressources. Donc voilà. Et après, effectivement, les ressources financières, hein, c'est une grosse contrainte. C'est pour ça qu'il faut aussi aller lever des fonds, voilà, c'est disons ça dépend aussi des entreprises. Il y en a qui peuvent très vite générer des revenus et puis du coup s'autofinancer, se bootstrapper comme on dit aussi, donc s'autofinancer, mais pour beaucoup c'est pas forcément le cas, et donc voilà, il faut aller chercher des investisseurs.
Dans quel cas on peut s'autofinancer? Est-ce que c'est des startups avec un périmètre financier, on va dire, plus restreint ou comment ça se passe?
Comment l'autofinancement?
Ouais.
Ouais, en fait, ça, souvent, bon, alors déjà, il y a la question des ressources personnelles de l'entrepreneur, hein, donc si on a de l'argent soi-même, on n'a pas besoin d'aller en chercher à l'extérieur, donc c'est voilà, en fonction de un peu de ses revenus par ailleurs, parfois oui aussi un conjoint qui gagne sa vie, qui peut un peu assurer les ressources de base, mais donc voilà, ça va dépendre un petit peu, si on a la capacité de s'autofinancer parce qu'on a des ressources financières Super. La deuxième façon, c'est si on a un produit qui très vite peut se vendre et donc assez vite générer les premiers revenus et donc on peut très vite réinjecter. Voilà, c'est donc ça, c'est typiquement des produits de consommation, mais aussi des services qui peuvent être mis à dispo quand il y a quand il y a beaucoup d'innovation ou besoin d'investissement dans un projet, c'est là que c'est plus difficile voilà, de s'autofinancer tout de suite avec des revenus parce que y a pas de revenus, quoi. Donc
Ah.
il faut du temps avant que les revenus arrivent.
Est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour, admettons, on a des entrepreneurs dans notre audience là qui peuvent s'autofinancer. Est-ce qu'il y a un intérêt pour eux de s'autofinancer? Pardon, est-ce qu'il y a un intérêt pour eux d'aller chercher des investisseurs même si ils ont la capacité de s'autofinancer? Est-ce que ça en intéresse ça?
Ouais, non, ça c'est une très bonne question. Après, c'est assez personnel aussi pour chaque entrepreneur, je pense. Disons l'avantage d'aller chercher des investisseurs extérieurs, même si on a nous-mêmes la capacité d'investir, c'est disons d'aller rechercher pas seulement de l'argent, mais aussi des ressources, des personnes. Et donc des investisseurs qui vont apporter d'autres choses, des réseaux, un peu de soutien moral, hein, juste une présence, des partenaires avec qui on va pouvoir échanger, discuter, se remotiver de temps en temps, confirmer des doutes. Et puis effectivement, voilà, cette ressource financière en se disant, tiens, ça va dépendre aussi du profil de l'entrepreneur. Certains vont être, OK, je mets toutes mes ressources. Certains vont être un peu plus prudents et vont pas vouloir mettre trop de ressources personnelles parce que voilà, il y a aussi des familles et une famille derrière et on veut pas non plus tout risquer ou d'autres raisons. Donc voilà, je pense que ça dépend un petit peu je veux dire, ouais, voilà, du profil de risque de chaque personne, mais aussi des opportunités, hein. Trouver des investisseurs, c'est pas facile non plus. Enfin, on en parlera un petit peu après, mais il faut avoir un peu ce réseau-là. Et puis voilà, et puis l'envie d'avoir d'autres personnes avec soi pour partager un peu cette entreprise, cette aventure entrepreneuriale.
Tu as parlé un petit peu tout à l'heure, tu as mentionné les incubateurs et les accélérateurs. Qu'est-ce que un entrepreneur peut tirer de ce genre de programme? C'est quoi les avantages pour lui?
Oui, non, c'est une question importante et c'est vrai que c'est un peu parfois un peu mystérieux quand on n'a pas été dans ce type de programme. En fait, donc il y a deux choses. Donc il y a les incubateurs et les accélérateurs. Incubateur, en gros, c'est plus au démarrage, plus au début, quand on est vraiment en train de structurer son projet, de construire son business plan et de voilà de voir un peu quel est le potentiel un peu pour son projet. Et puis ensuite, un peu quand on a un peu plus avancé, ça va être plutôt les accélérateurs qui là permettent vraiment de structurer un produit, de chercher un petit peu peut-être différentes formes de voir quelle est la meilleure façon de structurer un produit et son business, et puis de commencer à aller ensuite chercher des investisseurs. Donc c'est pour ça que Spring, par exemple, on se décrit plutôt comme un accélérateur parce que voilà, on crée ce lien avec les investisseurs. Donc ça permet vraiment de commencer à ouvrir son projet vers le monde extérieur. Mais ils ont en commun, en général, que donc ils fonctionnent vraiment des programmes de formation, d'accompagnement. Donc ils sont en général limités dans le temps, ils ont une durée spécifique. Il faut candidater, enfin il faut postuler, il faut rentrer dedans. Souvent ils ont des thématiques ou des voilà des ils font des critères d'éligibilité particuliers. Donc il faut un peu regarder si ça convient. Mais moi, en fait, bon, les gros avantages de ce type de structure, déjà, ça donne un peu un cadre. Ça permet de structurer un petit peu son quotidien, parce que bon, quand on est entrepreneur, voilà, on a toute liberté de faire ce qu'on veut. Mais c'est parfois utile d'avoir, voilà, c'est un peu un cadre, une structure, des réunions toutes les semaines, et un cadre précis avec un objectif à la fin de sortir de l'incubateur ou l'accélérateur avec un quelque chose, quoi, enfin avec
Ah
un produit, soit un produit,
ben,
soit un business plan, soit donc voilà, en fonction de. Donc c'est. Je pense que c'est pas mal parce que voilà, enfin ça a ce côté structurant. Après, ce qui est aussi utile, c'est que ça permet de rentrer dans une communauté. Donc, il y a d'autres entrepreneurs. Il y a le policier d'apprendre aussi un peu de ses pairs. Souvent, c'est des structures qui ont aussi un peu du mentorat, du coaching, et donc des ressources vraiment qui sont vraiment faites pour les entrepreneurs qui sont dedans.
J'imagine que ça permet aussi de tester le marché parce que peut-être que dans la même cohorte d'accélérateurs, on a peut-être des potentiels clients et des
Oui, tout à
potentiels
fait. Des clients, parfois aussi des compétiteurs. Hein. Il y a aussi des gens qui sont. Donc, ça, c'est aussi intéressant en fait, à voir parce que on voit un peu ce que font les autres et puis ça stimule, ça pousse. Je pense à préciser aussi son projet. Mais effectivement, des clients potentiels et parfois des investisseurs. Donc, voilà, c'est quand même. C'est vrai que ça prend du temps, ce genre de programme. Mais voilà, il faut être assez vigilant sur quels sont les bons programmes. Des programmes qui sont très connus ici à Vancouver, il y a les programmes de EATUBC. Là, qui sont. Alors, souvent accessible aux étudiants ou aux étudiants qui sont sortis de cette université. Mais c'est vrai que EATUBC, c'est un des plus connus et qui est très actif à la fois sur le tout démarrage et puis après la suite, donc qui suit un peu, on va dire, les entrepreneurs.
Donc, j'imagine qu'il existe énormément d'accélérateurs différents. Si on parle de celui de Spring, c'est combien de semaines en général?
Oui, donc ça va dépendre des programmes. Là, en général, c'est plusieurs semaines. Pour les entrepreneurs, nous, on a des programmes qui durent entre 5 et 6 semaines. Là, par exemple, on a en ce moment un programme pour soutenir tout ce qui est les femmes entrepreneurs et l'investissement dans les femmes. Donc on a 3 semaines de pré-programme et puis ensuite environ 3 semaines après ça, de rencontres avec les investisseurs. Et puis pour les entrepreneurs qui vont passer toutes les étapes un peu de sélection des investisseurs, elles auront des semaines en plus. On a aussi des programmes en ligne qui sont disponibles quand on veut. On a un programme qui va sortir en mars là, qui est justement sur ce qui s'appelle préparation à l'investissement, donc investment readiness. Donc on a des programmes en ligne, en cohorte, en personne. Voilà, donc c'est un peu les deux formats.
Là, si on se passe au niveau des investisseurs, qu'est-ce qu'un investisseur veut voir pour pouvoir investir dans une entreprise, dans une startup?
Oui, en fait, le plus important, la première chose qu'ils vont regarder, c'est la personne, les personnes. Donc, c'est vraiment les individus. L'entrepreneur ou les co-entrepreneurs, s'il y en a plusieurs. Mais c'est vrai qu'une grande partie des. La première chose que va regarder un investisseur, c'est avec qui je vais me lancer dans cette aventure. Puisque quand tu investis dans une startup, en général, ça va durer plusieurs années. C'est quelque chose qui va durer un moment. C'est pas un investissement qui est très liquide dans termes financiers, mais ça veut dire que quand tu investis, tu vas pas pouvoir. C'est pas comme si tu vas à la banque, hop, je récupère mon argent. Non, en général, ils vont mettre leur argent et puis ils savent que c'est pour un moment. Donc l'important pour eux, c'est de savoir avec qui ils vont se lancer là-dedans, qui est la personne, est-ce qu'ils vont leur faire confiance, à la fois eux en tant que personne, mais aussi dans le projet et dans le projet entrepreneurial qu'ils ont. Donc ils vont passer pas mal de temps juste à connaître l'entrepreneur et à identifier qui ils sont. Et ça, c'est valide en fait à toutes les étapes en fait d'une entreprise, que ce soit vraiment les premiers investisseurs, on va dire ce qu'on appelle des anges investisseurs, donc c'est des particuliers qui vont mettre de l'argent dans une entreprise, ils vont regarder les personnes, mais quand on parle avec des fonds de venture capital, de VC, aussi c'est extrêmement important pour eux la personne. Et donc ça c'est des choses importantes. Ils vont ensuite évidemment regarder le business model, qu'est-ce que c'est, quel est le produit, quel est son potentiel de marché, quel est le potentiel de croissance, puisque quand on est investisseur, l'idée c'est de mettre de l'argent dans une entreprise, que l'entreprise grandisse, et puis qu'à un moment, on puisse récupérer l'argent, sortir l'argent avec, si possible, une plus-value. Et donc, bah voilà, l'argent qui aura servi à quelque chose, mais aussi à l'investisseur. Donc, le potentiel de croissance, c'est très important pour un investisseur. Et puis après, et voilà, pour certains, donc nous chez Spring, on regarde beaucoup, on parle beaucoup avec des investisseurs à impact. Donc cette dimension-là, l'impact que l'entrepreneur a, va être très importante. C'est pas le cas de tout le monde, hein, les investisseurs qui n'ont pas forcément recherche de l'impact. Ils vont chercher, voilà, à soutenir un entrepreneur et puis à gagner des sous, hein. Mais voilà, nous on fait un peu cette partie-là, et donc les investisseurs qui cherchent un impact vont quand même aussi bien creuser cette question-là quand ils parlent avec un investisseur. Et puis après, bah, évidemment, la sortie. Donc, quand on met de l'argent dans une entreprise, même si c'est pour le long terme, c'est pas pour toujours non plus. Et donc, l'important, c'est de savoir comment ils vont pouvoir sortir. Donc, et donc récupérer leur bille. Et donc, ça, c'est des considérations quand même très importantes pour un investisseur. Si tout de suite il se dit, bon, je vois pas trop comment, qui va racheter cette boîte, quel est son potentiel à la sortie, et c'est sans doute, bah, voilà, il va pas forcément investir. Et donc c'est vrai que, voilà, toutes les activités de conseil, typiquement, sont difficilement difficiles, qui sont très basées sur des personnes, des individus, même des activités de formation. Bah, difficile de trouver des investisseurs, parce que, bah, il n'y a pas forcément de sortie possible, et donc de vente, puisque tout est basé sur qui sont les personnes.
La personne, ouais. Okay. Pour faire la différence auprès d'un investisseur, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'imagine que des investisseurs voient des startups, je sais pas, tous les jours, toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ouais, bah, c'est en fait, donc l'important, c'est, pour se démarquer un peu des autres entrepreneurs qui vont approcher aussi ces mêmes investisseurs. Nous, les conseils qu'on donne, c'est, bah, déjà d'être assez réactif. Quand il y a une demande, quand ils demandent des informations supplémentaires sur votre entreprise, bah, voilà, de renvoyer ces informations. Et ça, souvent, voilà, c'est quelque chose qu'on peut sous-estimer, de dire, bon, voilà. Donc, quand on parle avec un investisseur, vraiment, être réactif, répondre aux emails. S'ils font des introductions, ils vous disent, ah tiens, faudrait que tu parles à telle personne, bah, faut le faire, parce que après, sinon, bah, voilà, ils vont un peu perdre leur intérêt. Donc, je veux dire, voilà, être sérieux et faire le follow-up. Après, souvent, ces relations, ouais, en fait, ce qui est important aussi, c'est de construire, en fait, une relation. Même si c'est un investisseur et qu'il est là potentiellement pour mettre de l'argent dans la boîte, il n'a pas forcément envie qu'on le voit juste comme un espèce de portefeuille ambulant, qui est juste là pour investir. Voilà, c'est important aussi de construire cette relation personnelle, et de pas être juste dans la transaction, on va dire, mais voilà, ça va apporter de la confiance, dans la relation. Puis voilà, ça rend la relation agréable, ce qui va être aussi quelque chose d'important pour l'investisseur. Et puis,
J'imagine qu'il existe pas mal d'événements de networking, ce genre de choses, où on peut rencontrer des investisseurs et créer une relation justement,
ouais,
se
tout à fait.
demander tout de suite, donnez-moi les sous, donnez-moi les sous, quoi.
Oui, exactement. Et puis après, alors, le dernier conseil, je pense, important, c'est que, ben, voilà, souvent on reçoit un refus. Enfin, malheureusement, c'est un peu la réalité. C'est que, bah, y a beaucoup de non avant d'avoir des oui, sauf si on est très chanceux, c'est ce qui arrive aussi. Mais comment on réagit, en fait, quand les gens disent non? Ça va être important, parce que, voilà, à la fois, bah, de dire, ah, bon, merci. Déjà, quand il y a un refus rapide, parfois, souvent, c'est mieux d'avoir un refus rapide que ah, peut-être, qui va durer super longtemps, et jamais vraiment avoir le non. Donc, quand il y a un refus, faut être, bah, déjà, ouais, enfin, reconnaissant, enfin, on se comprend, reconnaissant d'avoir une réponse claire, et puis demander un peu de feedback, savoir un peu pourquoi. Et puis, peut-être éventuellement aussi des milestones, enfin, des choses qui regarderaient, en fait, qu'est-ce qui ferait, qui
Amélioration.
regarderait, voilà, qu'est-ce qu'on, donc, Et en général, les gens sont plutôt, voilà, faut leur, en fait, souvent il faut le demander. Ils vont peut-être pas le dire volontairement, mais quand on leur demande, ils vont partager. Et puis parce que voilà, on sait jamais. Ils peuvent revenir. C'est les réseaux sont petits. Voilà.
Et puis la start-up ou l'entreprise, ça se trouve, va avoir l'investisseur au mauvais moment, c'est pas la bonne année, c'est pas peut-être la bonne personne pour ce projet-là, mais ils peuvent peut-être référer un autre investisseur. Donc, ouais, effectivement.
Exactement, ouais. Non, non, exactement, tu as tout à fait raison. Le côté, voilà, ils peuvent mettre en contact aussi. Donc, voilà, être, voilà, ne pas se vexer, s'énerver, parce que bon, on peut, bon, voilà, brûler des ponts, c'est dommage.
Ça fait. On parlait un petit peu des réseaux, des événements de réseautage. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en Colombie-Britannique comme écosystème pour les startups en termes d'événements, de structures? Qu'est-ce que les entrepreneurs se doivent de connaître, plus ou moins?
Oui, ben, déjà, en fait, il y a différents types de structures. Donc, je dirais en premier un peu donc, tout ce qui est les universités, donc SFU, UBC, mais aussi BCIT. J'imagine que tu partageras tous ces acronymes
Je
pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà.
partagerai
Mais donc, voilà, ils ont tous des structures pour les entrepreneurs, souvent qui sont créées pour les étudiants de ces structures-là, mais qui font aussi beaucoup d'événements, qui sont ouverts au public, et donc surveiller un petit peu tout ce qui se passe autour de ces universités, surtout quand on a un projet tech un peu innovant, ou éventuellement, bah voilà, essayer de rejoindre un programme de ces universités. Il y a aussi des programmes court terme qui permettent ensuite d'accéder à ces programmes, donc regardez ça. Il y a aussi un peu des organismes publics, Innovate BC, New Ventures BC. Donc ça aussi, ce sont des structures qui organisent des compétitions de pitch régulièrement. Donc hésitez, enfin voilà, ne pas hésiter à candidater. Et puis si on n'est pas pris, il y a quand même après l'événement où voilà, il va y avoir les pitchs qui vont avoir lieu des gens qui ont été pris. Mais souvent c'est des événements publics, donc faut pas hésiter aussi à s'inscrire, à y aller. Après évidemment, il y a donc tous les investisseurs. Il y a des investisseurs voilà dans le NBC, j'ai partagé un lien avec toi qu'on pourra partager aussi dans les notes, mais bon après des recherches Google aussi permettent de trouver pas mal de choses, donc ça c'est des investisseurs, donc ça c'est plutôt pour le une fois qu'on est enfin voilà qu'on a déjà une entreprise qui est assez conséquente, mais sinon le dernier truc que je voulais partager c'est tout ce qui est les réseaux d'anges investisseurs. Donc il y a Vantech qui est le gros réseau des anges, donc c'est des particuliers hein, qui investissent dans des startups. Il y a Angel Forum aussi, qui est un gros réseau. Et donc ça, c'est donc les investisseurs deviennent membres. Et puis ensuite, il y a des entrepreneurs qui peuvent venir pitcher. Et parfois, il y a des événements aussi qui sont public, ouverts. Et donc, bah, on peut y aller, quoi, s'inscrire et y aller. Donc pareil, faire un peu de veille. Peut-être un point important que je n'avais pas souligné, c'est qu'en fait, aussi en Colombie-Britannique, les investisseurs ont des avantages fiscaux à investir dans des startups. Et donc, ça permet, en fait, c'est des dispositifs un peu d'encouragement à l'investissement. Et donc, si on investit dans une startup early stage qui est éligible à ce dispositif, l'investisseur qui va mettre n'importe quoi, 100 000 dollars, en fait, il va récupérer en fonction de son patrimoine et de ses revenus, il peut récupérer entre 30 et 60% en fait de l'argent qu'il a mis bah, au
Et là,
titre voilà,
c'est
de ses
et
avantages
anges
fiscaux.
et investisseurs. C'est les deux peuvent recevoir ça?
C'est les anges, ça c'est pour les anges
Les
investisseurs,
anges,
donc c'est pour les particuliers. Ouais. Donc ça c'est important de connaître ce dispositif parce que bah, ça permet de c'est un gros moteur en fait pour l'investissement. Et c'est des gens qui voilà sont dans ces réseaux-là qui ont ce type de voilà, d'avantages.
Et donc j'imagine que tout ce petit monde-là organise des événements relativement récurremment, peut-être pas forcément toutes les semaines, mais tous les mois, où
Bah,
on peut.
Ouais, il y en a beaucoup. Donc, par exemple, Vantex, c'est tous les mois. Angel Forum, c'est par trimestre. Voilà, mais il faut un peu regarder toutes ces choses-là. Les universités, il y a énormément d'événements aussi. Il faut juste trouver le bon créneau. Mais voilà, c'est bon, quand on est dans ces réseaux-là, on a l'impression qu'il y a tout le temps des événements. Quand on est un peu extérieur, je pense qu'on voilà, on les voit un peu moins, mais ça vaut la peine un peu de se pluguer. J'imagine la SDE, vous avez aussi beaucoup d'événements. voilà.
Tu regardes où d'ailleurs pour trouver tous ces événements, le site de chacun, de chacune de ces structures ou
Oui,
Eventbrite
en fait, le mieux, c'est de se mettre dans les news, de s'inscrire aux newsletters de toutes ces structures. Et puis, voilà, comme ça, on reçoit les infos. Regardez un petit peu sur LinkedIn. Il y a aussi pas mal d'événements qui sont partagés. Ouais, je pense que ce seraient les principales sources. Puis ensuite, voilà, en parler dans ces réseaux. Quand on est entrepreneur, souvent, on est dans des réseaux d'entrepreneurs. Donc, ne pas hésiter à.
Pas mal de
Voilà.
groupes. Il y a aussi, je sais qu'il y a aussi Vancouver Startup Week qui existe. Donc j'imagine que c'est sur une semaine. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette semaine?
Ouais, bah ça c'est vrai. Donc c'est Vancouver Startup Week, ça a lieu en mai-juin. Faut vérifier, j'ai pas vérifié les dates de 2024, mais on pourra les partager. Mais voilà, ça a lieu bientôt là en mai-juin 2024. Et donc tous les ans, c'est voilà l'occasion de rencontrer pareil d'autres entrepreneurs et puis d'assister à des panels, des discussions sur l'investissement. C'est toujours de l'occasion voilà d'apprendre des choses et de développer un petit peu son réseau.
Donc tu me disais au tout départ que tu avais maintenant 15 ans d'expérience. Qu'est-ce que tu as pu voir comme erreur récurrente de la part des entrepreneurs?
Écoute, je pense la question de la préparation. Et du coup, ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit avant ça. Les incubateurs, les accélérateurs, c'est des bons endroits en fait pour se préparer. Ce que je vois comme erreur. Pas forcément des erreurs en fait, hein, mais de pas forcément avoir fait un peu sa préparation, je veux dire le homework, les devoirs, mais de quand on va voilà parler avec dans des réseaux, dans des voilà même avec des investisseurs, c'est important un peu de s'assurer qu'on est au stade de développement qui va les intéresser. Et donc, de ne pas perdre trop de temps après à essayer de absolument vouloir rencontrer les investisseurs quand c'est trop tôt, quand on n'est pas prêt. Donc, voilà, je prêche un petit peu pour ma paroisse quand je dis allez voir les accélérateurs, les incubateurs pour vous préparer. Après, il y a plein aussi de structures en ligne qui permettent de se préparer, pas forcément dans des structures comme ça. Mais ouais, voilà, je pense qu'après, il n'y a pas forcément d'erreur, hein. C'est sûr que. Il y a un peu la question de la première impression qui va être quand même importante et donc s'assurer de donner une image préparée. Voilà, donc ça c'est, je pense que c'est la chose principale.
Préparer et la présentation et le contenu de ce qu'on veut dire et savoir à quel public, j'ai envie de dire, qu'on parle, suivant les différents événements auxquels on va et pas comme tu disais, bah, aller trop tôt à un événement où on sait que bah,
Ouais.
notre projet n'est pas prêt, ce genre de choses.
Ou alors quand on va à un événement, vraiment être en écoute et puis peut-être voilà parler avec des discussions avec d'autres entrepreneurs ou des gens qui sont un petit peu au même stade que vous, pas forcément aller tout de suite voir les intervenants et les fonds, même si bon, après voilà, il n'y a pas vraiment de right or wrong, hein, et c'est bien aussi de développer son réseau, mais je pense commencer par développer son réseau. Ça peut trouver un petit peu des champions dans telle ou telle communauté qui vont pouvoir aussi vous introduire et pas juste faire du enfin voilà de commencer de zéro à chaque fois, essayer de s'appuyer un peu sur des personnes qui vont pouvoir faire les introductions. Ça c'est souvent voilà une partie importante, et un investisseur va être beaucoup plus sensible à une introduction qui vient de quelqu'un qu'il connaisse qu'une introduction qui vient de nulle part.
Okay. Ben, merci beaucoup, Davina. Si on veut te joindre pour parler d'accélérateur, de start-up, de Spring, comment on fait?
Eh bien, alors moi, je suis très active sur LinkedIn, donc de pas hésiter à m'envoyer un petit message, une demande de connexion, et puis je réponds aussi aux messages. Spring, bah, donc on est sur Internet, spring.is, donc pas mal de contenu là qui explique ce qu'on fait, qui parle de nos programmes à venir, et puis aussi de nos événements. Et donc voilà, côté des événements publics, bah, pas hésiter à s'inscrire, on est ravis d'avoir du monde, et puis voilà. Vous pouvez parler aussi d'un programme qu'on a qui arrive au mois de mars là, donc en fonction de quand les personnes écoutent, on a un programme de formation pour les femmes sur tout ce qui est levée de fonds. Donc c'est un programme qui est en anglais, qui va être en anglais au démarrage, mais qui va être aussi en français, disponible en français. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus d'informations là-dessus ou de regarder directement sur le site web.
Bah parfait, Davina. Merci beaucoup.
Merci à toi pour l'invitation.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. À très vite sur Micro-Entreprise.